Chapitre 54. Wagon atelier de Milana, doigt de Givet. Les dernières cendres voltigeaient. Le panache de fumée se dispersait, rendant à la clairière un peu de clarté, dans une odeur atroce d'essence brûlée. La puanteur se mêlait à l'horreur. Les flammes avaient atteint les branches de chêne et de noisetier les plus proches, mais sans que l'incendie ne se propage au reste de la forêt. L'incessante pluie d'automne tombée sur les Ardennes depuis 4 jours l'avait sauvée. Nanès s'éloigna des débris incandescents du wagon atelier, quelques mètres, téléphone portable collé à l'oreille. « Décrochez, Catel, décrochez, s'il vous plaît !» La capitaine de gendarmerie l'avait appelée sans lui laisser de message, il y a un peu moins d'une heure, mais n'avait plus donné aucune nouvelle depuis. Nanès pesta dès qu'elle tomba sur la messagerie. « Rappelez-moi, je vous en supplie, c'est urgent !» Les autres, Hans et Vicky, Pierre et Eléa, s'étaient déjà dirigés vers l'entrée du tunnel. Avant de leur emboîter le pas, Nanès observa une dernière fois les ruines devant elle, les braises couvertes de suie, les morceaux de laine et de soie noircis, les pantins de bois dont il ne restait plus que les yeux de verre, quelques boutons de plastique, une pipe ou une paire de lunettes, tels des bonhommes de neige après le dégel. Des destins fondus. Au fond, n'est-ce pas ce que Milana aurait voulu, que tout redevienne cendre et poussière? Tout en marchant, Nanès rappela encore la gendarme. Râla de tomber à nouveau sur la messagerie. S'étonna même du curieux écho qui résonnait à son oreille, comme si le téléphone de la capitaine sonnait quelque part tout près et qu'elle l'entendait. Elle chassa d'un revers de pensée cette idée ridicule. Catel Marel était occupée place Ducale, n'avait aucune idée d'où Nanès avait pu se rendre, et dans le cas improbable où elle aurait pu le deviner, 3 fourgonnettes de gendarmerie auraient déjà envahi la clairière. Elle s'apprêtait pourtant à raccrocher, puis rappeler, pour en avoir le cœur net, quand la voix de Vicky déchira le silence. « Qu'est-ce que vous fichez? Venez! On n'a pas de temps à perdre !» Leurs regards se croisèrent. Vicky n'avait plus qu'une obsession, retrouver Lola. Elle l'avait appelée à s'en déchirer les poumons, à en recracher toute la fumée inhalée, avait fouillé les alentours, pressée et paniquée, sans trouver aucune trace de sa fille. Au fur et à mesure que ses cris désespérés s'étaient enroués, l'effroyable évidence l'avait rattrapée. Les 2 gueules brûlées, Christophe et Amos l'avaient enlevée, avant de mettre le feu au wagon atelier. Ces 2 monstres, peut-être accompagnés de leur père Libor, les avaient suivis avant de les piéger. À regret, Nanès accéléra pour rejoindre les 2 couples qui s'engageaient dans le tunnel. Personne ne parlait, personne ne posait la moindre question, chacun se concentrait dans la pénombre pour ne pas trébucher contre les rails abandonnés. Hans soutenait Vicky, qui ne lâchait pas Casper. Lola l'avait laissée dans le wagon quand elle était sortie.
« Maman, je reviens tout de suite, je te le confie !»
Pierre, quelques mètres derrière le premier couple, tenait la main d'Eléa. Eléa se fichait du silence. Une seule chose comptait, avoir retrouvé la poigne forte de son Petrouchka, ses mouvements félins, ses gestes de danseur pantin qui guidait les siens dans la nuit claire du tunnel. Elle aurait tant aimé que pour une fois son cerveau la laisse en paix. « Peux-tu ramasser une branche ?» la harcelait Brain. « Et te donner un coup sur la tête, histoire d'être certaine que je ne rêve pas ?»« Te rends-tu compte, Eléa ? On est en train de galoper derrière un 2e Pierre. » Ou son sosie parfait. » Eléa confirmait. Hans possédait exactement les mêmes yeux gris que Pierre, la même corpulence fine aux muscles longs. Si elle avait croisé Hans dans les rues de Paris, elle l'aurait confondu sans hésiter avec son amoureux. Seul un examen plus précis permettait d'observer les différences entre son Petrouchka et cet homme. Les mains de Hans étaient moins manucurées que celles de Pierre, ses cheveux étaient un peu plus longs aussi, la peau de Pierre légèrement plus claire. Des différences infimes, mais qui suffisaient à la rassurer. « Non, Brain, pas un sosie parfait. Mon Petrouchka est unique. » Et elle serra plus fort encore la main de son amoureux. « Ton Petrouchka, » fit Brain, « devrait être mort, et nous aussi. » Ils atteignaient déjà le bout du tunnel. Nanès, toujours la dernière des 5, vit la lumière avaler les 4 silhouettes. 4 ombres noires dans le contre-jour. Un sentiment étrange, de colère et de soulagement mélangé, la tiraillait. Quand Hans et Pierre avaient surgi des flammes pour leur sauver la vie, Nanès avait enfin compris. Elle avait compris pourquoi Vicky et Eléa n'avaient jamais douté que leurs amoureux soient vivants. Elle avait compris ce qui clochait dans le récit de Mina, ce qui l'avait dérangée en écoutant la voix de sa belle-mère, sans qu'elle ne parvienne pourtant à cerner l'incroyable vérité. Dès que Nanès sortit à son tour de la galerie, elle aperçut sa Clio qui l'attendait sagement sur l'herbe, un berlingot rouge garé sur sa gauche. La voiture de Vicky. Elle avança d'un pas supplémentaire et manqua de tomber à la renverse. Elle dut se retenir au mur de briques de l'entrée du tunnel. Une voiture de gendarmerie stationnait à côté des deux véhicules, celle de Catel Marel. Une nouvelle fois, tout se bousculait dans la tête de Nanès. Si la voiture de la capitaine était garée devant eux, c'est donc que Catel était venue jusqu'ici, qu'elle était entrée dans le tunnel pour essayer de les sauver. Mais si les deux gueules brûlées avaient tout de même pu incendier le wagon atelier, c'est donc que Catel avait échoué. Où était-elle? Avec Lola?
Montez!
Cria Vicky. Les phares du berlingot clignotèrent. Elle avait confié Casper à Hans, puis ouvert la portière.
Montez, je vous dis! Répéta Vicky. Ma fille est en danger!
Eléa et Pierre attendaient sans savoir quelle attitude adopter.
Et où voulez-vous aller?
Demanda Nanès. La première chose à faire est d'appeler la gendarmerie. J'essaye depuis tout à l'heure. Cette voiture appartient à la capitaine Catel Marel. Il y a quelque chose que nous ignorons et...
Je veux retrouver ma fille!
Hurla Vicky.
Et il n'y a aucune seconde à perdre!
Pierre s'était rapproché. Il s'exprimait d'une voix calme, presque chantante. Elle a raison. Ces deux monstres ont pu emmener votre fille n'importe où. Ils devaient être garés ici, eux aussi, mais ont pris soin de dissimuler leur véhicule, sinon on les aurait repérés. Nous n'avons pas le choix. Si cette Catel Marel ne décroche pas, il faut appeler la police. Pierre sortit son téléphone portable. Eléa admirait sa froide détermination. Vicky tremblait, tétanisée. Hans paraissait étonnamment étranger à la scène. Il s'était assis sur le tronc le plus proche du berlingot et à l'aide d'un canif, opérait Casper à cœur ouvert.
Catel ne répond toujours pas, confirma Nanès, excédée.
Je compose le 17, trancha Pierre.
Non !
Cria soudain Vicky.
Non !
Son téléphone venait de sonner. Deux notes pour indiquer la réception d'un message, d'une photo ou d'une vidéo. Le visage de Lola était apparu sur son écran, figé dans une expression de terreur.